Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
L'église de Christ au Congo s'est dit préoccupée par la recrudescence des violences dans l'est de la RDC notamment et des tensions intracommunautaires dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasai. L'ECC recommande ainsi au chef de l'État d'organiser un dialogue national en vue de résoudre des questions de paix, de sécurité et de gouvernance étatique. Sud Kivu, cette alerte de la société civile environnementale sur la situation qui prévaut à Bouozi dans le territoire de Kabaré, des familles entières risquent de perdre la vie à la suite d'un glissement de terre qui s'annonce par des fissures qui se répandent dans la zone. Le président de cette structure demande au gouvernement congolais de prendre des mesures urgentes. Et puis, non à l'exécution de la peine capitale, quelle que soit la faute commise, c'est la réaction du président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il réagit ainsi à l'initiative du Conseil supérieur de la défense visant à recourir à cette peine contre des militaires qui se seraient rendus coupables de trahison dans la guerre de l'Est du pays. Maître Henri Wemboloa est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. L'Église du Christ au Congo, ECC, recommande au président de la République d'organiser un dialogue national entre Congolaises et Congolais en vue de résoudre les questions de paix, de sécurité et de la gouvernance étatique. Ce message de l'ECC fait partie du compte-rendu des travaux de sa 62e session ordinaire du comité exécutif national lu lors d'un culte à la cathédrale du centenaire protestant hier dimanche à Kinshasa. Plus de détails avec vous, Paul Matendo Mayamba.
L'Église du Christ au Congo, ECC, s'est dit préoccupée par la recrudescence des violences dans les provinces de l'Est et des Kwango et Maïndombe, aussi par la montée des tensions intracommunautaires dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï. D'où Dominique Moukania, rapporteur national du synode national de l'ECC, demande au chef de l'État d'ouvrir un dialogue national entre fils et filles du pays en vue de reconstruire la cohésion nationale autour des causes communes que sont la paix, la sécurité et la gouvernance de la RDC. Autre recommandation issue de ces travaux, finaliser la procédure de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle en vue de poursuivre les auteurs nationaux et internationaux des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes économiques commis en RDC. Sous un autre chapitre, l'ECC dit conscientiser les leaders politiques à dépasser les différends qui les opposent pour permettre à la nation de survivre face aux complots ourdis contre elle et qui pèsent sur le devenir commun. Aussi, mobiliser les fidèles protestants et l'ensemble de la population congolaise à s'approprier la lutte contre la balkanisation du pays. L'ECC n'a pas manqué de fustiger avec fermeté le protocole d'entente sur les chaînes des valeurs durables pour les matières premières conclu dernièrement entre l'Union européenne et le Rwanda dans un contexte où plusieurs rapports internationaux précisent l'implication directe de ce pays voisin dans le pillage systématique des matières premières au prix de crimes contre l'humanité en RDC.
De son côté, Constant Mutamba, député national et président du parti politique Dynamique Progressiste de l'opposition républicaine DIPRO, propose d'engager des actions judiciaires contre les Congolais qui prennent des armes pour accéder au pouvoir. Il propose aussi des poursuites judiciaires contre Paul Kagame. Il a dit au cours d'un point de presse samedi au siège de DIPRO à Kinshasa, Constant Mutamba, dans ses propos recueillis par Vanessa Nkongolo.
Nous avons proposé la mise en place du bloc des résistants nationalistes pour mobiliser, rassembler, fédérer tous ceux et celles de nos compatriotes, jeunes et vieux, qui ont accepté de demeurer loyaux envers la République. Il faut rassembler et dénicher très rapidement des intelligences et des hommes d'audace, des patriotes, pour pouvoir accompagner rapidement les efforts de guerre. Deux, il faut mettre en moule la machine judiciaire contre tous les compatriotes, d'abord complices suspects internes, contre même ceux qui ont adhéré au M23, puisqu'ils sont congolais. Mais pourquoi est-ce que la justice congolaise n'arrive-t-elle pas à lancer de mandat d'arrêt international contre ces gens-là? Contre Corneille Nanga et sa bande. Parce que le statut de Rome fait partie intégrante de notre arsenal juridique. Mais il est également possible pour que notre État saisisse directement la CPI contre M. Paul Kagame. Et vous en verrez les conséquences. L'État congolais devrait rapidement saisir la CIJ. Il est bien possible pour un État de pouvoir se plaindre contre un autre État. L'exemple le plus récent, c'est l'Afrique du Sud contre l'État israélien.
Constant Mutamba a par la même occasion annoncé sa candidature au poste de porte-parole de l'opposition à l'Assemblée nationale. Sur le plan militaire, les chefs des forces de défense des quatre pays membres de la SADC et du Burundi annoncent leur détermination à imposer la paix dans la zone affectée par l'activisme de la rébellion du M23. Les chefs d'état-major généraux des FARDC, de l'Afrique du Sud, de Malawi, de la Tanzanie et du Burundi ont clôturé samedi une mission de 3 jours à Goma. Le but de la rencontre était d'évaluer les opérations conjointes en cours dans le cadre de la mission de la SADC en RDC. Bernard Nyangi, reportage.
À l'issue des 2 jours de travaux, vendredi et samedi, les 5 chefs d'état-major généraux ont promis, entre autres, de renforcer les troupes de la mission de la SADC engagée aux côtés des troupes burundaises et des FARDC contre la rébellion du 1-23. Ils ont aussi mis en place des stratégies pour imposer la paix dans la région. C'est ce qu'a déclaré devant la presse le porte-parole militaire des FARDC au sortir de ces rencontres, le général-major Sylvain Kengé.
Il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer. Pour faire l'état des lieux de la situation, ils se sont rendus à Mobambiro. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale.
Arrivé jeudi à Goma, les délégations des chefs de forces de défense des pays contributeurs de troupes de la SAMI-RDC, notamment l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie, en présence des chefs d'état-major généraux des FARDC et du Burundi, ont clôturé samedi leur visite de travail à Goma. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la CENI prolonge jusqu'au 8 mars la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. La clôture était initialement prévue le 1er mars. Dans son communiqué qu'il annonce, la Commission électorale nationale indépendante justifie ce report par la recherche d'une inclusivité plus large, également par des contraintes d'ordre financier. Elle invite par ailleurs les regroupements politiques, partis politiques et autres candidats indépendants à s'assurer du dépôt réel de leurs formulaires et pièces annexes dûment signées. Par ailleurs, notez le début, ce lundi 4 jusqu'au vendredi 8 mars, des audiences sur les contentieux des résultats aux élections législatives provinciales de décembre 2023 à Kinshasa. Elles sont programmées à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, indique un communiqué de cette cour publié hier. Selon le chronogramme publié par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la journée de lundi est consacrée aux requêtes en contestation des résultats provisoires des élections législatives pour les communes de Gombe, Ngiringi, Kitambo, Makala et Lingwala. Les dossiers des communes de Bumbu, Kalamu, Kasavubu et Barumbu seront traités mardi. Le mercredi sera consacré au dossier de Mongafula et le jeudi à ceux de Selembao et Bandalungwa. Les contentieux de la commune de Ngaliema seront traités le vendredi 8 mars. Direction Sud Kivu, je vous le disais en titre, la société civile environnementale tire la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut à Bouozi dans le territoire de Kabare. Des familles entières risquent de perdre la vie suite à un glissement de terre qui s'annonce par des fissures qui se répandent dans la zone. Des murs de certaines maisons d'habitation et des écoles sont fissurés, des sols courts, des maisons ou des écoles fendues en deux. Josué Aruna, président de la société civile environnementale, insiste et demande au gouvernement congolais de prendre des mesures urgentes avant que le pire n'arrive. Il s'exprime au micro de Emmanuel Elamegi.
Cette population de Bouozi est en danger critique. L'alerte aujourd'hui est dans un signal très rouge. Et si les autorités n'arrivent pas à prendre cette situation au sérieux, nous risquons de connaître la situation que nous avons connue à Nyamukubi et Bushushu où il n'y avait pas de signal. Mieux vaut ici, il y a un signal d'alerte qui n'est pas à négliger. Chose déplorable. Nous rencontrons dans ce lieu, il y a encore des écoles du côté et d'autres, que ce soit du côté de Bukavu, que ce soit de la ville de Bukavu, que ce soit du côté du territoire de Kabare, dans la chefferie de Kabare, où les enfants continuent à étudier dans cet écosystème déjà en danger. Donc, tout l'écosystème là est en danger critique et nécessite une délocalisation immédiate et sans condition. Il faut que les autorités au niveau de la province prennent des mesures correctives et idéales pour essayer de sauver cette population. Sinon, c'est une catastrophe humanitaire du jamais vu.
Nord Kivu, la coordination des comités d'élèves de Butembo demande au gouverneur de province de tenir compte des recommandations issues de la rencontre de mercredi dernier à Butembo entre la société civile locale et la direction provinciale de l'EPST Nord Kivu 2. C'était pour analyser les différentes revendications de la communauté autour de la fixation des frais de participation à l'examen d'État pour cette année. Cette structure d'élèves exhorte en effet l'autorité provinciale à exempter les élèves finalistes déplacés et orphelins de guerre du paiement de ces frais, mais aussi de diminuer le montant de 130 000 francs congolais fixé dans son arrêté pour d'autres finalistes de la partie est du pays, victimes de l'insécurité. Jacques Tungela, président de la coordination des comités d'élèves de Butembo, explique, il est joint par Grévis Salomon.
Dans notre zone, on voit déjà les enfants orphelins, les enfants déplacés, qui leur paraît travailler par-ci par-là, mais qui n'ont plus la source ou avoir quelque chose qui peut aider à leur scolarisation. Dans la zone où trouver quelque chose, c'est devenu déjà difficile, puisque les routes sont barricadées par-ci par-là. Où travailler, c'est devenu difficile. C'est déjà compliqué. En fait, nous demandons au gouverneur de voir comment il peut exempter tous ces enfants déplacés, tous ces enfants orphelins de guerre qui leurs parents déjà perdu la vie, voir comment intervenir, qu'ils soient vraiment mis à l'écart pour ces frais. Tous ces enfants ne soient plus concernés, même voir comment diminuer pour d'autres enfants. C'est quelque chose que nous attendons, nous le supplions vraiment.
En réaction, le gouverneur militaire du Nord Kivu annonce que les discussions vont continuer avec les autorités de l'EPST à Kinshasa pour trouver une exonération en faveur des élèves finalistes déplacés de guerre. En plus bref, à Kinshasa, notez que la deuxième phase de la campagne de traitement de l'ulcère de Buruli, communément appelé Mbassou, se tiendra à Kinshasa à la polyclinique Caris ou Charité de ma campagne du 6 au 20 mars prochain. Dans une déclaration à la presse, Dr Jean-Paul Lembelembe, expert des plaies évoluant en France, a précisé que cette deuxième campagne devra apporter des nouvelles techniques de prise en charge en faisant recours à la greffe, notamment le remplacement de la peau. Venons-en à présent avec la série de reportages que vous propose Radio Kapi, notamment sur le marché frontalier de Lufu au Congo central. Il s'agit d'un espace commercial situé dans le territoire de Songololo. Il est devenu depuis quelques années la porte par laquelle l'industrie angolaise déverse ses produits sur le marché congolais. Pour commencer, voici la carte postale de l'agglomération de Lufu que nous propose Daniel Tambizoni.
La RDC et l'Angola sont séparées par le pont d'une quinzaine de mètres jeté sur la rivière Lufu. Pas de données claires sur l'estimation de la population et moins sur la superficie de l'entité selon le chef de l'agglomération. Mais ce que l'on sait, Lufu se situe dans le territoire de Songololo dans la province du Congo central. L'agglomération de Lufu, ce grand centre commercial, n'a qu'une seule voie asphaltée, la RN15 qui part de la route nationale numéro 1 jusqu'à la frontière. Sa principale activité est le commerce, pas d'école publique, pas d'électricité de la SNEL, pas d'eau de la régie des eaux, pas de structure médicale de l'État malgré la démographie galopante. Lufu, avec son marché transfrontalier bâti sur 13 hectares et demi, aujourd'hui devenu célèbre, avait timidement commencé les échanges entre les deux peuples dans les années 80 par le troc. C'est vers la fin des années 90, ce qui coïncide avec la fin de la guerre civile en Angola, que la monnaie intervient dans les échanges commerciaux. Depuis cette époque jusqu'en 2008-2009, c'est la RDC qui nourrissait le peuple angolais le long de la frontière. Quelques années plus tard, et grâce à son organisation industrielle après la guerre, c'est l'Angola qui offre presque tout depuis une décennie maintenant des produits vivriers manufacturés à la RDC. Lufu Agglomération est ainsi devenue célèbre à cause de son marché qui attire les commerçants de Boma, de Matadi, de Kinshasa et même ceux des provinces issues de l'ex-Grand Bandundu.
Une autre série de reportages sur Radio Kapi, c'est celle relative aux volcans au Nord Kivu. Il s'agit des volcans Nyiragongo et Nyamulagira, localisés dans la région du Rift Est Africa. Le mouvement tectonique du dit Rift a donné naissance à ces deux volcans situés au nord de la ville de Goma. Toutefois, ce mouvement à lui seul dans la région des Virunga remonte à des millions d'années selon les experts. Dans un entretien avec Images accordé à Radio Kapi, il y a quelques jours, le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, explique l'historique des volcans des Virunga. Sifa Maguru nous en parle dans ce reportage.
D'après l'OVG, les rifts Est-Africa ou encore cette déchirure de la terre va depuis le golfe d'Aden, notamment la mer Rouge en passant par le Soudan, l'Éthiopie, la RDC précisément au Nord Kivu, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et au-delà. C'est dans ces fossés d'effondrement que sort les magmas pour constituer les débuts du volcanisme. Explication de Charles Balagizi, directeur scientifique de l'OVG.
On regarde avec des méthodes scientifiques, on se rend compte que l'activité du rift a commencé il y a environ 65 millions d'années, très longtemps. Pourquoi nous disons que le volcan Nyiragongo et Nyamulagira qui ont environ, surtout le Nyiragongo qui a environ 15 000 ans, il est très jeune comparativement à 65 millions d'années, n'est-ce pas? Et donc, pour surveiller les volcans, nous devons prendre en compte tous ces aspects. Les aspects géophysiques, ça veut dire le mouvement du rift qui bouge et le volcanisme qui suit ces mouvements, n'est-ce pas?
D'après cet expert, la région des Virunga comprend 8 volcans majeurs, dont 2 actifs, notamment les Nyiragongo et les Nyamulagira. Ce sont ces derniers qui présentent un danger pour la population des Goma et ses environs et qui sont surveillés de près par l'OVG. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Actualité internationale. Les pays exportateurs de gaz ont convenu ce week-end en Algérie de coopérer pour lutter contre la volatilité de la demande du marché qui affecte négativement la performance économique mondiale. Cette décision a été prise à l'issue du 7e sommet des principaux exportateurs de gaz, déterminés à travailler avec toutes les parties pour parvenir à des marchés du gaz naturel équilibrés et fiables. Les représentants des pays exportateurs de gaz ont ainsi souligné l'importance des contrats de gaz naturel à moyen et long terme dans la déclaration d'Alger.
L'invité.
Non à l'exécution de la peine capitale, quelle que soit la faute commise, c'est la réaction de maître Henri Wemboloa, avocat et président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il réagit ainsi à l'initiative du Conseil supérieur de la défense visant à recourir à cette peine contre des militaires qui se seraient rendus coupables de trahison dans la guerre de l'Est du pays. Maître Wemboloa propose des solutions alternatives dans cet entretien avec Babel Pongo Massimango.
Maître Henri Wemboloa, bonjour.
Bonjour Madame Babel.
Le Conseil supérieur de la défense souhaite le rétablissement de la peine de mort en République démocratique du Congo pour des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre dans l'Est du pays. Comment vous réagissez à cette initiative?
Il faut d'abord saluer le travail du Conseil supérieur de la défense, de constater et de mettre, n'est-ce pas, à jour au grand public l'existence de beaucoup de traîtres dans l'armée. Nous conseillerons que d'autres études soient menées pour avoir plus de détails et de précisions s'agissant des motifs à la base de cette traîtrise. Quant à la mesure de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, nous disons que c'est aller trop vite en besogne et nous ne sommes pas vraiment d'accord avec cette opinion.
Pourquoi vous pensez que la peine capitale ne doit pas s'appliquer en RDC alors qu'elle figure dans le code pénal congolais?
Madame, il y a à dire à ce propos, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la peine de mort figure, n'est-ce pas, parmi les peines prévues par la législation. Mmh. Aujourd'hui, nous avons une situation qui nous amène vers l'abolition de la peine de mort. Parce que dans notre constitution, prenez article 16, article 61, où on parle de la vie qui est sacrée, on a dit qu'on ne peut en aucune circonstance, même s'il y a état de siège, toucher à certains principes fondamentaux et certains droits comme la vie. Et donc, là, nous sommes vers une abolition. Deuxièmement, nous pensons que c'est très important. Nous ne voulons pas de la guerre, nous ne voulons pas de la traîtrise, et nous avons de la compassion pour autant de morts. C'est la situation en RDC comme tous ceux qui sont à l'extérieur de la RDC qui ne sont pas d'accord avec les actes de torture, des assassinats qui se commettent à l'occasion de la guerre. Dire qu'il faut recourir ou exécuter la peine de mort, là encore nous disons non. Parce que la peine de mort ne donne pas une garantie de sécurité, de manque de traîtrise. À titre d'exemple, je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont reçu des mandats d'arrêt international et qui se retrouveraient à l'extérieur du pays. Ces personnes-là, il n'y a aucun pays qui peut accepter de les extrader vers la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Conformément à la Convention contre la torture, on ne peut pas extrader une personne là où il y a la torture, là où on applique la peine de mort. Et vous verrez, il suffit d'exécuter un seul cas de peine de mort. Plusieurs personnes vont quitter encore le pays. Ils vont aller se réfugier ailleurs.
Pour ceux qui prônent le recours à la peine de mort, est-ce que ce n'est pas un moyen de dissuader d'autres de recourir à ces actes de traîtrise?
Les études qui ont été menées à travers le monde ont démontré que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif.
Oui, et maître, pour le Conseil supérieur de la défense, qui pense qu'il faut châtier fortement avec la peine capitale et les traîtres, disons, qu'est-ce que vous proposeriez alors comme alternative pour punir sévèrement les militaires auteurs de traîtrise?
Punir sévèrement, c'est bien dire. Mais aujourd'hui, en criminologie, il y a un principe. Nous avons besoin de la certitude de la peine plutôt que de la sévérité de la peine. Nous disons qu'il y a des solutions appropriées que l'on peut apporter par rapport à ce problème. Même les sanctions disciplinaires au sein des institutions, elles sont importantes. Par rapport à la question de la guerre, la question de la traîtrise, il y a plusieurs solutions, y compris aussi la justice transitionnelle. Coup de chapeau pour le gouvernement qui a commencé à nous chercher une politique pour la justice transitionnelle. Et dans cette justice transitionnelle, on parle des réformes des services de sécurité. C'est quelque chose d'important. Parce qu'on sait que dans les services de sécurité, nous avons beaucoup de traîtres. Quand on va procéder à la réforme, on va enlever des tomates pourries. Mmh. Voilà autant de solutions qui existent. Et il faut avoir, n'est-ce pas, la tête froide pour trouver des solutions aux problèmes. Le président de la République parle par moment de la question de la justice. Il y a des erreurs judiciaires. Et on peut encore commettre beaucoup d'erreurs judiciaires. Et là, nous avons salué son action, s'agissant par exemple de l'affaire assassinat de feu Laurent Désiré Kabila. On n'a pas de décision judiciaire palpable. Il a dit non, que tous ceux qui sont arrêtés, qui ont passé de 20 ans, ils sont sortis de prison. Alors qu'ils ont été condamnés à la peine de mort. Et s'ils étaient exécutés?
Merci Maître Henri Wemboula d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Et par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.